Je vous invite à vous tourner avec moi dans la lettre de Paul aux Romains. On est au chapitre 14. On a déjà commencé, on a parlé des forts et des faibles dans la foi. Et en fait, on va continuer dans cette veine, dans cette pensée du chapitre 13, du verset 13, pardon, au verset 23. Et ce passage encore, Paul s'étend sur ce sujet. Il l'a déjà abordé dans d'autres, ou il va l'aborder dans la lettre aux Corinthiens. Et c'est, j'ai bien pensé que si dans la parole il y a des répétitions, c'est pour une bonne raison. C'est le Saint-Esprit qui inspire le texte aux auteurs chrétiens qui les ont mis sur des supports papier ou peaux d'animaux, etc., des parchemins. Et l'idée de l'image que nous, les chrétiens, nous pouvons donner à l'extérieur de ce qu'est l'Église, c'est une grande responsabilité. Et bien souvent, nous pouvons faire obstacle à ceux du dehors, aux païens, qui peut-être seraient ouverts à venir à Dieu, mais qui, parce qu'ils ont une image de ce qu'est l'Église, de ce que vivent les chrétiens, ils disent « ça ne me dit rien du tout ». J'avais un ami, quand je travaillais aux États-Unis, c'était un excellent golfeur. Il jouait au golf depuis tout petit. Il avait, d'ailleurs, j'avais introduit dans la compagnie où je travaillais, la compagnie des téléphones, j'avais ramené des jeux de pétanque. Et il était devenu tout de suite un champion à la pétanque. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette coordination entre l'œil et la main. Donc il avait eu aucun problème à se mettre à la pétanque. Et souvent, j'essayais de témoigner auprès de lui et il n'était pas du tout ouvert. Il m'avait dit, en fait, Pierre, si tu savais ce que je pense des chrétiens, tu ne me parlerais plus. Bon, je dis, mais ça, on est amis et je pense qu'on peut le rester. Et donc, j'essayais de lui dire un peu qu'en fait, il y avait un Dieu qui nous aimait, qui nous avait créés, qui avait des bons plans pour nous. Et j'essayais de l'inviter, je lui dis, mais tiens, la semaine prochaine, on a un événement à l'église, il y avait des enfants qui vont chanter pour Pâques, tu pourrais venir avec ta famille, etc. Et en fait, il voulait rien savoir. Et il m'a dit, en fait, que pour lui, s'il venait à l'église, ça voulait dire qu'il devait abandonner le golf. Et pour lui, c'était, à ce moment-là, c'était trop demandé. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu l'impression, on lui avait dit que si tu es chrétien, tu dois venir à l'église tous les dimanches. Tu ne dois rien faire d'autre que venir adorer le Seigneur. Alors, pas que ce soit une mauvaise chose en soi, c'est bien aussi de se retrouver le dimanche en communauté, en communion fraternelle et de louer le Seigneur. Mais cette image avait été projetée qu'il y avait des choses à faire, des choses interdites. Et pour lui, devenir chrétien, ça voulait dire ne plus pouvoir s'adonner à ce pourquoi Dieu lui avait donné des dons. Et donc, il ne voulait rien savoir. Et je lui ai dit, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas ta présence à des réunions un jour donné dans la semaine. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il veut te parler, il veut te toucher. Et c'est vrai que on peut être à cheval sur des choses externes, des choses qui ne sont pas essentielles. Alors, l'idée, moi, quand j'ai commencé à devenir chrétien, quand j'ai été interpellé, que j'ai commencé à venir à l'église, le dimanche matin, moi, j'allais pêcher les saumons. Et donc, ça, quand j'ai commencé à devoir venir le dimanche matin, c'était dur. Mais rapidement, je me suis aperçu que j'avais plus de joie à venir au culte le dimanche matin, d'entendre parler de Dieu, d'apprendre sa parole, de connaître sa parole, de le louer, d'avoir la communion fraternelle avec des frères et des sœurs, plutôt que de me lever le dimanche matin, encore plus tôt que tous les autres jours de la semaine, pour être arrivé sur les lieux de pêche le plus tôt possible, pour battre la foule qui arrivait. Et en fait, j'étais esclave d'un plaisir. Mais personne ne m'a dit « Ah non, il faut que tu viennes le dimanche matin, tu dois abandonner. » Ça s'est fait progressivement, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Et beaucoup de fois, on a nos convictions sur des choses externes qu'on essaye d'imposer aux autres. On leur dit « Non, si tu es chrétien, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Plus de maquillage, tu dois avoir des robes qui descendent jusqu'aux chevilles. » Tu dois pas manger de poisson, pas de viande le vendredi, ça c'était dans la foi catholique. Et quelqu'un a dit, et c'est très important, on dit qu'on ne prête qu'aux riches. Alors souvent cette phrase est attribuée à saint Augustin, parce que saint Augustin a beaucoup écrit, un kabyle d'ailleurs, d'Afrique du Nord, qui est devenu un des pères de l'Église, donc un des personnages les plus influents dans l'histoire du christianisme au début de l'ère chrétienne. En fait, c'est un dénommé Rupertus Meldenius. Rupert Meldin, je ne sais pas comment on dit en français. Mais la phrase, c'était « unité pour les choses essentielles ». Liberté pour les choses non essentielles, mais de l'amour en toutes choses. Autrement dit, il y a des choses essentielles de la foi, on en a parlé de la semaine dernière, le fait que Jésus-Christ est un personnage historique authentique, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est divin, qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité physiquement, après avoir séjourné 3 jours dans la tombe, il va revenir. Le texte biblique que nous avons ici est divinement inspiré. La Bible est infaillible dans tout ce qu'elle nous déclare. On est déclaré juste par notre foi, par nos bonnes œuvres. Et puis, il y a c'est ce que Jude appelle la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a des choses essentielles. Si quelqu'un ne s'accorde pas sur ces choses, vous pouvez les considérer comme des païens ou comme des sectes. Les témoins de Jéhovah, par exemple, disent que Jésus n'est pas Dieu, il est une création de Dieu. Ils ne peuvent pas se dire chrétiens et ils ne sont pas sauvés. Parce qu'il n'y a de salut que donné aux hommes que dans le nom de Jésus-Christ. Et puis c'est vrai qu'il y a les choses non essentielles de la foi, qui souvent sont les choses sur lesquelles on se dispute. À l'époque de Paul, on a déjà commencé à en parler, c'était la viande qui avait été sacrifiée aux idoles, est-ce qu'on pouvait la manger ou pas ? Est-ce qu'on devait célébrer le Seigneur le dimanche ou bien le sabbat, typiquement le samedi ? Aujourd'hui, il y a plein de ces sujets. Boire de l'alcool. La Bible ne dit pas que boire de l'alcool, c'est interdit. La Bible dit que ce qui est interdit, c'est d'être saoulé par l'alcool. Alors, la meilleure façon de savoir où s'arrêter, c'est de ne pas en boire du tout. Parce qu'après on dit, ben, je ne suis pas encore tout à fait saoul, donc ça va. Mais voyez, c'est des choses qui sont prises. Il y a surtout aux États-Unis, il y a des milieux où si vous touchez de l'alcool, c'est comme si vous avez rejeté Dieu. Alors qu'en fait, Jésus-Christ lui-même a transformé de l'eau en vin, et pas l'inverse. Parce que le consommer avec modération, le vin peut être une bonne chose. Voir des films, est-ce qu'on est censé voir des films ? Louer des vidéos, des DVD, ça c'était à l'époque où on les louait, maintenant on peut faire ça en ligne, on peut télécharger. Est-ce qu'on est un chrétien doit regarder la télé ? Alors c'est vrai que la télé a pu devenir dans nos sociétés comme un petit hôtel devant lequel on est mesmérisé, on est complètement focalisé, on peut nous montrer n'importe quoi, mais on regarde dans un état second. Jouer aux cartes, est-ce qu'un chrétien doit jouer aux cartes ? Est-ce que des jeunes chrétiens peuvent jouer au loup-garou ? Est-ce qu'ils peuvent danser, écouter de la musique non chrétienne ? Travailler le dimanche ? Est-ce que c'est un péché ? Est-ce qu'on peut célébrer Noël avec un sapin de Noël ? Manger des œufs de Pâques ? La façon dont on s'habille, la façon dont on coupe ses cheveux si on en a ? Le maquillage et tous ces sujets ? Souvent, ça fait partie de tradition, mais ce n'est pas nécessairement basé sur la parole de Dieu. On va lire ensemble, à partir du verset 13, le reste du chapitre 14. C'est page 1282 dans la Bible second 21 que vous pouvez emprunter ici. On va prier aussi. Seigneur, éclaire-nous sur ton texte. Aide-nous à en retirer les leçons que tu veux nous enseigner ce matin. Merci que ce texte nous est parvenu jusqu'à nos jours, Seigneur, que nous pouvons librement nous réunir pour le lire. On pense à tous nos frères et sœurs persécutés. On pense à ceux qui n'ont pas cette liberté. Aide-nous à bien en l'utiliser. Amen. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas de boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. On va s'arrêter là pour l'instant. Les traductions de la Bible. Vous savez que la Bible a été écrite en trois langues essentiellement. L'hébreu, pour la plupart de l'Ancien Testament. Il y avait aussi le grec pour la majorité du Nouveau Testament. Et il y a quelques autres passages qui sont écrits en araméen, qui était la langue parlée en Israël à l'époque de Christ. Mais la plupart des écrits du Nouveau Testament sont en grec ordinaire. Et le grec est une langue très riche qui peut décrire très précisément les situations, les émotions. Lorsqu'on traduit une langue, on privilégie, il y a deux pôles qu'on va privilégier à l'exclusion l'un de l'autre. Soit on va faire du mot à mot, et c'est très riche quand on veut faire une étude biblique, parce qu'on voit quel était le mot qui était utilisé, on voit comment la phrase était construite. Et puis il y a l'autre pôle, c'est de faire une traduction plus fluide. On appelle ça la traduction dynamique. Et la seconde 21 est un peu une combinaison des deux. Mais par exemple, là, il est dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » En fait, l'idée, dans le texte original, c'est un jeu de mots sur le jugement. C'est vraiment de dire « Ne vous jugez donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement » pour ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Donc c'est le sens qui est rendu dans la version qu'on a lue n'est pas perdu, mais c'est intéressant de voir aussi que le Saint-Esprit est un bon pédagogue. Il nous dit en fait, vous voulez juger, alors ne jugez pas les mauvaises choses, jugez les choses essentielles, jugez la façon dont vous vous comportez, pour ne pas placer d'obstacles, de pièges. Si on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, il va avoir tendance à le faire. Là, si on vous dit, au lieu de vous dire ne faites pas ceci, mais faites cela, au moins vous avez une alternative. Et donc, souvent, il y a l'injonction dans la parole de Dieu de ne pas juger l'autre. En fait, c'est de ne pas le juger pour l'écraser et pour vous montrer supérieur. Mais l'idée d'apprécier les comportements, c'est quelque chose qui nous est demandé. Mais l'idée, donc, ici, c'est vous voulez juger, ne jugez pas pour critiquer les autres, mais jugez-vous vous-même. Usez votre jugement, votre jugeote, on dirait aujourd'hui, pour ne pas mettre d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Il y a les obstacles qu'on trouve la nuit quand on se lève dans le noir et qu'on va aller au petit coin ou boire un verre d'eau. On a oublié qu'on a ramené une valise qu'on a laissée dans le couloir et on peut se faire très mal. Et puis il y a les pièges qui sont placés là avec malveillance. Et c'est grave, en fait, Paul nous dit qu'on peut placer des pièges dans la foi de nos frères, en leur demandant de faire certaines choses ou en leur imposant des choses qui ne sont pas imposées ou demandées par Dieu. Il continue en disant « Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. » Il ne faut pas prendre ça pour dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Dans le cadre présent, dans le contexte, encore une fois, il faut toujours lire un passage dans son contexte. Et ce que Paul nous dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de nourriture impure, mais que si quelqu'un considère une nourriture comme impure, alors elle va être impure pour lui. Ça va aussi pour le choix des jours dans lesquels on célèbre Dieu. Mais ça ne veut pas dire que l'adultère, c'est, c'est pas impur, donc si on considère que c'est pas impur, on peut s'en donner à cœur joie. Et non, c'est pas l'idée. Vous pouvez pas utiliser ce verset pour faire n'importe quoi. Et Jésus nous avait déjà donné cette leçon. Il disait, écoutez-moi tous et comprenez, c'est dans Marc 7, 14 à 23, il n'est rien du dehors qui du dehors entre dans l'homme et qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole et il leur dit, vous aussi, vous êtes sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, cela entre dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. Car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Quelle liste ! Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. On se rappelle aussi de l'épisode de Pierre qui vivait à Jaffa, à l'époque biblique, qui avait vu cette vision d'une grande nappe qui descendait du ciel avec à l'intérieur des aliments purs et impurs. La voix de Dieu lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Il répond, dit « Non, Seigneur. » car je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. » Et Jésus lui répond, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva trois fois à Pierre. Et bien sûr, l'idée, c'était de montrer à Pierre que l'Évangile était aussi destiné aux païens, mais elle montrait que rien n'est impur intrinsèquement. Plus loin, Paul dira à Timothée, « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Je crois que c'est l'idée, c'est que si on dit des actions de grâce, on pense à Dieu et que, en fait, on remercie Dieu pour sa création, pour les vaches qu'il a créées. Pour ce qui concerne, il dira plus loin, les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu si nous n'en mangeons pas, mais nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Encore une fois, c'était un sujet important parce que la congrégation à Rome était composée d'une grande partie de juifs et de païens et que la distinction pour les juifs, historiquement, de fait de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, d'avoir des jours particuliers, c'était un peu ce qui leur donnait leur identité. Et il faut prendre garde que notre identité, nous ne la trouvions pas dans nos pratiques religieuses, mais dans notre relation avec Jésus, avec Dieu. Et c'est très facile de penser qu'on est chrétien parce qu'on va le dimanche matin à l'église avec une Bible sous le bras. C'est pas ça qui définit notre relation avec Dieu. Mais il fallait que la Bible insiste autant, on voit tous ces passages qui concernent ces sujets, parce que c'était intrinsèquement quelque chose que les gens, avec lesquels les gens se définissaient. Et Paul doit expliquer, et Jésus doit l'expliquer, Pierre doit l'expliquer. Et puis, verset 15, « Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. » ne cause pas par la nourriture, par ta nourriture la peine de celui pour lequel Christ est mort. Christ est mort pour tous les hommes. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas seulement les anciens juifs, ce n'est pas seulement les enfants de chrétiens ou les gens dont la grand-mère était chrétienne, c'est tous les hommes, y compris les musulmans, les bouddhistes, les athées, les impies, tout ce que vous voulez. Et notre rôle, c'est surtout pas de faire tomber ou d'empêcher les gens de venir à Dieu, d'être un obstacle, d'être un piège. La perte de celui pour lequel Christ est mort, là c'était dans le cadre de l'Église, ça ne voulait pas dire qu'ils allaient perdre leur salut, mais ils allaient perdre leur opportunité de croissance, de maturation dans la vie chrétienne. Il rappelle des prières, des priorités éternelles, que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie, c'est-à-dire que vous avez cette liberté, on a vu qu'il parlait des forts dans la foi et des faibles dans la foi, et que nous on aurait tendance à penser que ceux qui sont forts dans la foi, ce sont ceux qui ont un code très rigide de pratique et d'attitude et de comportement, alors qu'en fait c'est l'inverse. Parce que la vérité nous rend libres. Aime Dieu et fais ce que veut. On n'est plus obligé de suivre des règlements, de façon tatillonne à la loi. Et si on a compris cette liberté, on ne veut pas que, en disant que ben moi, ça ne me gêne pas d'écouter de la musique non chrétienne, toi tu écoutes qu'Exo et un tel autre groupe chrétien, on ne veut pas que la personne qui est nouvellement chrétienne, qui est faible dans la foi, ne trébuche et dise, parce que peut-être cette personne a dit, mais le pasteur il m'a dit qu'il écoutait des fois de la musique non chrétienne. La musique, c'est Dieu qui a permis que nous l'apprécions. C'est des mathématiques, des ondes électromagnétiques, des ondes qui viennent toucher nos oreilles, qui se transforment en électricité, qui vont titiller notre cerveau et qui peuvent nous mettre dans des états. Alors justement, c'est ces états qui peuvent être dangereux. Mais en soi, la musique est neutre. Et donc, on ne veut pas que ça soit un sujet pour ceux qui ont des difficultés avec cette liberté de dire, mais ces chrétiens-là, à Calvary Chapel, ils écoutent même de la musique rock. Où il y a même une époque où il y avait des cours de danse au Café Colombe. Ils apprenaient le swing dans les locaux de l'église. Je le confesse. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Ça, c'est un verset très, très riche. Comment peut-on le comprendre? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. L'endroit où Dieu règne, ce n'est pas dans nos petites stipulations, nos règlements, tatillons. Ce n'est pas dans ce que je vais manger ou ce que je vais boire que je vais passer à côté du royaume de Dieu ou entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce qui compte, et c'est très beau, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est une belle série, une belle description. La justice, on sait que c'est un don de Dieu qui nous justifie, qui nous déclare juste. Et quand il fait ça, il nous donne de la valeur. Il nous dit même, en fait, Dieu nous dit qu'on a une valeur infinie. Je ne sais pas si vous avez fait un peu d'économie, même rudimentaire, mais il n'y a pas de valeur intrinsèque d'un objet. La valeur d'un objet, la valeur monétaire d'un objet, c'est la valeur que quelqu'un est prêt à dépenser à un moment donné pour l'acquérir. Vous vous souvenez peut-être de votre iPhone 3, si vous en avez eu un. À l'époque, ça coûtait très cher. Les gens étaient prêts à dépenser une bonne somme d'argent pour en acquérir un et être parmi les premiers à l'avoir et à les faire sonner. Non, pardon. Et puis, ce même iPhone 3, aujourd'hui, vous essayez, vous dites, tiens, je vais partir en vacances, je vais le revendre. Il m'avait coûté 500 euros. Avec ça, je peux faire un bon séjour pour le week-end à Amsterdam, peut-être. Ça a pu le faire. Ça a pu le faire. Pourquoi ? Parce que peu de personnes sont prêtes à dépenser 500 euros pour un vieil iPhone 3. Alors peut-être que si on attend 2000 ans que la Terre a été recouverte par de la boue, peut-être que si on en retrouve un, ça sera un trésor. Mais on est la valeur de quelque chose, c'est ce qu'on est prêt à dépenser pour l'acquérir ou pour l'avoir. Et nous sommes si précieux aux yeux de Dieu qu'il a dépensé, qu'il a donné son Fils sur la croix pour nous acheter. Il nous a créés, mais il nous a rachetés. C'est le rachat, c'est la rédemption. Et donc, nous avons une valeur incroyable aux yeux de Dieu. C'est ce don de justice. Il nous traite joyeusement, délicatement, comme notre propre enfant bien-aimé. Ça donne vraiment... Quand on se saisit de ça, ça nous donne un sentiment de dignité, de valeur, de respect de soi. Le fait de savoir que quelqu'un est mort pour moi, et pas n'importe qui. Le Fils de Dieu lui-même est venu s'incarner. Toute cette série de choses qu'il a faites par amour pour moi, ça doit me conduire à avoir un sentiment que je suis quelque chose aux yeux de Dieu. Et ça transforme ma vie, parce que je veux me comporter en accord avec cette appréciation que Dieu a pour moi. On parle en ce moment de la cocaïne, qu'il y en a de plus en plus qui arrivent en France par courrier. Maintenant, on commande sur Internet, ça arrive dans des enveloppes. Ils en attrapent quelques grammes ou quelques kilos de temps en temps, mais ces personnes qui croient que pour trouver un sens à leur vie, ils doivent complètement se disconnecter de la réalité, c'est difficile à comprendre. Et collectivement, nous les chrétiens, nous avons une grande responsabilité de dire aux hommes qu'ils n'ont pas besoin de toutes ces choses-là, qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'ils ont de la valeur, Dieu a des plans pour eux. La justice, ça c'est le royaume de Dieu. C'est là que Dieu règne quand on a cette réalité, ce sentiment que Dieu nous aime, qu'il est juste, qu'il nous considère comme juste. Et puis il y a la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, c'était Romains 5, 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne retient plus notre péché contre nous. La paix, en grec, c'est le mot Irénée, qui nous a donné le prénom Irène, et qui veut dire union sous-entendue avec Dieu. L'incroyant qui n'est pas sauvé, il est en guerre avec Dieu. Paul dira, nous étions ennemis. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Colossiens 1:21, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Prophète Ésaïe disait, il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Il disait aussi, l'œuvre de la justice sera la paix et l'ouvrage de la justice, la sécurité et la confiance pour toujours. Nous avons reçu cette déclaration de paix parce que Jésus est mort sur la croix. Psaume 85 dit, la bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. C'est apaisant ces paroles, non ? La justice et la paix s'embrassent. Il y a la paix donc avec Dieu, qui est la paix face à Dieu, qui doit être distinguée de la paix de Dieu que dont Paul fait mention dans Philippiens 4, où il dit « Ne vous inquiétez rien de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » La paix avec Dieu, c'est ce besoin du pécheur qui nous amène en relation juste avec Dieu. La paix de Dieu, c'est cette communion qui nous réjouit moment par moment. Cette paix, elle est manifestée par un calme intérieur. Et j'aime bien penser que c'est comme la quille d'un bateau, d'un voilier, qui lui permet d'affronter les tempêtes sans être renversé complètement. Avoir la paix avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a un sourire béat tout le temps, mais il y a cette profonde certitude que nous sommes en paix avec Dieu. Et que même s'il y a des orages, des tempêtes, cette paix, elle est toujours là. Et ça c'est comme une ancre intérieure. Elle est comme la quille de mon navire dans la tempête. Et puis, il y a la joie, la justice, la paix et la joie. C'est ça qu'on doit montrer au monde. On a ce sentiment de valeur parce que Dieu est mort pour moi. Le fait que Dieu m'aime, ce n'est pas démontré par toutes mes circonstances favorables, ou le fait que j'ai beaucoup de circonstances favorables par rapport aux circonstances défavorables, aux épreuves de la vie. Non, il est montré à la croix, cet amour. Et on n'a pas à douter de l'amour de Dieu si on est chrétien. Il l'a démontré une fois pour toutes. Il pourrait s'arrêter là en disant « Je vous ai garanti la vie éternelle » et puis nous laisser comme les autres, mais en même temps, il est là pour nous encourager, il a des bons plans, il a ce qu'il appelle des plans de vie abondante. Alors abondant, ça ne veut pas dire nécessairement facile, mais c'est riche, ça a du sens, c'est costaud. Et cette joie, c'est de savoir qu'on prend un tel plaisir à connaître Dieu que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, même si elle est remplie de problèmes et d'épreuves. On a cette conviction au fond de mon cœur, elle dépend plus des circonstances, mais de cette relation avec Dieu. Une des personnes les plus joyeuses que j'ai rencontrées, j'étais jeune chrétien, et c'était une personne âgée qui était mourante du cancer. Mais son visage rayonnait la paix, la joie. Et ça m'avait vraiment impressionné en me disant, ça, c'est ça être chrétien. C'est pas être toujours en bonne santé, riche et bien portant, comme certains voudraient le faire croire. C'est d'avoir cette relation profonde qui fait ça transparaît. Elle encourageait les autres alors qu'elle mourait du cancer. Mais ça, c'est la vraie joie. Et ça, c'est si on donne cette image au monde, et qu'on va pas se disputer pour savoir la taille des jupes qu'on doit porter ou pas, la viande qu'on doit manger ou pas, le jour où on doit se réunir ou pas. Quand le monde voit ça, il a pas du tout envie de devenir chrétien. Combien de fois, même des gens qui auraient pu avoir une importance grande dans l'histoire du christianisme, on connaît tous le Mahatma Gandhi, cet Indien qui a été le prophète ou le prédicateur de la non-violence. Il a grandi, je crois, sur l'île de la Réunion, et il a confessé qu'en fait, il était très intéressé par le christianisme, par la foi chrétienne, mais il a vu des chrétiens se disputer dans des églises, et il a dit que ça l'a complètement vacciné contre le christianisme. J'aime bien cette idée de voir des gens qui se sentent assurés d'avoir une valeur pour l'éternité, qui sont dans la paix et dans la joie. Est-ce que ça, c'est pas invitant? Alors que les gens, justement, dans le monde, ils sont dans la compétition, ils sont dans le stress, ils sont dans... Mais ils voient des chrétiens qui leur disent, mais j'ai trouvé la paix, la joie, un sentiment de valeur, la justice... Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est fruit de l'Esprit dont Paul nous parle dans Galates, qui est l'amour et puis les caractéristiques de l'amour. La joie de l'Éternel est votre force, disait Néhémie. On est fort si on a cette joie intérieure réelle. Et j'aime bien cette description qui nous dit que la paix, c'est la joie qui se repose, et la joie, c'est la paix qui danse. C'est drôle parce que c'est pas des modèles, mais je sais que Lindsay a prié pour que, la première fois qu'elle a eu un enfant, elle a prié pour que ce soit un enfant joyeux. Et Tony et elle ont eu Daphné, qui est assez joyeuse. Et puis elle a été assez fatiguée avec Daphné. Elle a demandé le deuxième enfant, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a prié pour que ce soit un enfant calme, un enfant paisible. Et elle a eu Django. Il est paisible, mais c'est vrai que ses membres bougent très vite. Donc c'est pas un exemple, c'est pas une illustration, mais pour moi c'est la joie et la paix, c'est des fruits qui attirent, qui font envie à ceux qui connaissent pas. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force, disait le prophète Néhémie. Et si nous avons ces priorités spirituelles dans notre vie, dans notre mariage, dans notre travail, dans notre famille, elles vont mériter l'approbation de Dieu. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable. C'est l'idée de service en montrant ses dispositions. Il est agréable à Dieu. Et puis, c'est un peu surprenant, il est approuvé des hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des non-chrétiens qui approuvent votre style de vie chrétien? Ils n'auront jamais l'humilité de le reconnaître. Mais ils vous regardent vivre et quelque part, ils ont une admiration pour vous. Quand j'ai quitté mon travail aux États-Unis, je travaillais dans l'informatique, à la compagnie de téléphone, pour devenir missionnaire en France, avec l'espoir peut-être d'implanter une église et des églises. J'ai donc abandonné l'assurance d'un salaire qui m'était versé tous les mois pour vivre par la foi et compter sur la bienveillance, l'amitié de personnes qui, et d'églises qui nous envoyaient un soutien financier. Et j'avais une collègue de travail avec qui j'essayais de partager ma foi, et elle se disait vraiment athée. Elle me trouvait bien, bien sympathique, mais pour elle, il n'y avait pas de possibilité qu'un Dieu existe. Elle avait connu des choses difficiles dans sa vie. Et en fait, j'ai été vraiment choqué, surpris, mais elle a été une des premières personnes à nous envoyer un peu d'argent chaque mois. Et je lui ai posé la question, je suis vraiment touché que tu fasses cela, mais pourquoi tu, toi qui ne crois pas en Dieu, tu contribues en fait à œuvrer pour Dieu en nous soutenant? Et elle a dit, je ne sais pas, mais j'admire le courage que tu as par ta foi à faire quelque chose que tu crois vraiment dans ton cœur. Et il y a beaucoup de gens autour de vous, ils ne vous le diront jamais droit dans les yeux, mais il y a une admiration parce que vous avez des convictions dans un monde où il n'y a plus, tout fout le camp, il n'y a plus de convictions, et aussi dans la façon dont vous essayez de vivre votre vie. S'ils voient cette paix, cette joie, c'est approuver des hommes, pas seulement des chrétiens, mais des hommes autour de vous, des gens autour de vous. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais manger quelque chose si cela représente un obstacle. Mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Quand j'étais gosse, mes parents parlaient toujours du grand voyage qu'ils avaient fait. Mon père était gendarme, officier de gendarmerie en Corse pendant la guerre. À l'époque, il y avait les Italiens, il y avait des guerres entre Italiens et Corses. Mais il s'est retrouvé muté en Guadeloupe. Et donc, c'était en 1943, pendant la guerre. Ils ont dû donc partir en bateau. À l'époque, il n'y avait pas d'EasyJet ou d'avion rapide. On prenait le bateau, donc ils sont allés à Marseille, et de là, ils ont pris un bateau de la compagnie générale maritime, qui s'appelait le Sagittaire, peu importe. Mais c'est pour vous dire que je peux vous donner des faits précis, c'est authentique. Et donc, ils ont traversé l'Atlantique à l'époque où il y avait les Allemands et leurs fameux sous-marins, les U-boats. Donc c'était essentiellement périlleux, dangereux. Ils avaient ma sœur aînée qui avait un ou deux ans à l'époque. Et à l'époque, quand on traversait comme ça en l'Atlantique, on faisait ce qu'on appelait des convois. Donc il y avait plusieurs bateaux qui voyageaient ensemble, et parmi ces bateaux, il y avait quelques bateaux de la marine nationale, ou ce qu'il en restait, qui étaient là pour protéger un peu si jamais il y avait un bateau qui se faisait couler, il pouvait laisser tomber des bombes sur les autres U-boats et compagnie. Mais pour que ça fonctionne, pour que ça marche, parce qu'il y avait des bateaux de différentes puissances, de différents âges. Il y avait des beaux bateaux, c'était des vieux rafiaux. Il y avait un principe de base, c'est que les plus rapides ralentissaient pour être à la vitesse des plus lents. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça s'applique exactement dans la vie chrétienne. Vous êtes peut-être un speedboat, vous avez compris les choses, vous avez grandi, vous avez une bonne notion des libertés en Christ, mais vous avez des frères, des sœurs qui n'ont pas cette liberté encore, qui n'ont pas compris qu'il n'y a pas de règles à suivre pour être accepté par Dieu, si ce n'est celle de donner son cœur à Jésus et de le laisser nous transformer par son Esprit Saint. Et nous, dans l'Église, On ne doit pas se montrer notre force en cavalant devant. On doit rester tous ensemble groupés. Et alors, la seule remarque que je ferai, c'est que il y a un danger si tout le monde se met à la portée du plus rétrograde des gens tatillons de l'Église. On va tous porter la cravate. Vous allez toutes, mesdames, avoir des jupes qui vous descendront jusqu'aux hanches, aux chevilles. Il n'y aura plus de maquillage, il n'y aura plus de rire, il n'y aura plus... On ne prendra que de l'eau, plus de café peut-être, parce que le café... Et donc, il ne faut pas non plus se laisser influencer ou se laisser dicter une conduite par les gens les plus tatillons, par les plus faibles dans la foi. Mais on a une responsabilité de leur montrer, de les enseigner, de leur dire qu'il y a des libertés qu'ils n'ont peut-être pas encore compris, mais de le faire toujours avec douceur, sans les écraser, sans se moquer d'eux, sans avoir leur donner l'impression qu'ils sont des moins que rien parce qu'ils n'ont pas encore compris leur liberté. Mais j'aime bien cette image du convoi où les plus rapides doivent... On se calme, on aide les autres à aller peut-être plus vite avec tout le monde, mais c'est ce sentiment, cette considération pour ceux qui sont moins forts que nous, entre guillemets, sans prendre d'orgueil sans se sentir plus fort parce qu'on a compris des choses. C'est par la grâce de Dieu qu'on a compris ces choses-là. Le faible doit apprendre du fort et le fort doit aimer le faible. C'est une façon de céder, c'est de céder. Céder nos privilèges, renoncer à des privilèges, à des libertés, pour aider ceux qui ne sont pas là encore à comprendre et à faire des progrès dans leur compréhension de la foi chrétienne. Souvent, les forts dans la foi doivent faire des progrès dans l'amour de ceux qui sont plus faibles. Et les faibles dans la foi, eux, ils doivent progresser dans la connaissance des vérités chrétiennes, de la vérité biblique. Le chrétien ne doit pas imposer ses opinions aux autres. C'est cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il ne s'agit pas d'une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Là, j'aime bien la traduction qui rend l'expression conviction de foi, c'est un mot qui est le même mot que le mot foi tout court. Mais l'idée, c'est que on doit tous, dans ces domaines, arriver à une conviction personnelle basé sur la Bible, basé aussi sur le contact avec d'autres frères dans la foi, mais qu'on doit, on doit pas imposer cette conviction. On doit toujours être en accord avec sa propre conscience. Notre conscience peut grandir, on peut, à la lumière biblique, voir qu'il y a des choses avec lesquelles on était très attachés, qui en fait n'ont pas besoin d'être respectées à la lettre. Mais si vous avez une conviction, respectez votre propre conscience. Quand vous commencez à violer votre conscience, c'est comme de bousiller la boussole que Dieu vous a donnée pour reconnaître le bon chemin. Ne jamais violer sa conscience. Mon pasteur de Seattle me disait « Notre foi pour marcher selon l'Esprit ne sera forte que dans la mesure où notre conscience est tranquille. » Si nous avons violé notre conscience, nous ne serons pas à l'aise. Ce même pasteur me disait qu'en fait, il y a 6 choses qui peuvent gêner notre conscience, affaiblir notre marche dans la foi. Ça peut être une éducation trop stricte et légaliste. Fais pas ci, fais pas ça. Tiens-toi bien, redresse-toi. Mets tes mains sur la table. Le dimanche, on va au culte, même si on est malade. toutes ces choses très strictes. Et puis il y a les accusations de Satan. On sait que Satan, c'est le père du mensonge. Il voit ce que nous faisons de mal. Et il nous dit, mais tu ne crois pas que Dieu va te pardonner encore une fois? Et oh, oui, c'est vrai, mais il est un menteur. Et le fait de ne pas se rendre compte de notre complète justice et salut par la foi en Christ, ce dont on parlait il y a quelques instants. Il y a aussi des habitudes d'introspection intense. Et ça, il y a des caractères où on aime bien se dire, mais est-ce que j'ai fait ça? J'aurais pas dû le faire. Et on peut stagner, et ça peut être un obstacle pour avoir la conscience en paix. Il y a les péchés passés non confessés. Il peut y avoir eu des choses dans votre vie qui sont des péchés. À l'époque, vous n'étiez peut-être pas sauvé, mais c'est bien de confesser à Dieu, peut-être à d'autres, si vous y sentez mené. Et puis enfin, il y a la pratique continue de certains péchés dans notre vie. Ce qu'on appelle les péchés habituels, qui ne devraient pas exister, mais on a donné lieu dans notre vie à des faiblesses. Et si on ne prend pas vraiment, avec l'aide de Dieu, le contrôle de ces choses, ça peut continuer à nous miner. Trois choses pour avoir la conscience tranquille: le sang de Christ. Le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, il purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Vos péchés passés, vos péchés même récents, vous pouvez les mettre sous le sang et vous consacrer au service de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous aide à avoir la conscience tranquille. Et puis, la chose essentielle, c'est d'obéir à cette conscience. Et Paul nous dira, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La clé, c'est l'amour. Le commandement de Jésus pour nous aimer les uns les autres doit se traduire dans tous les domaines, et notamment dans tout ce qui est sujet non essentiel. Et encore une fois, je rappelle cette phrase de Rupertus Meldenius. Je vous interrogerai la semaine prochaine. Rupertus Meldenius. Unité pour les choses essentielles, liberté pour les choses non essentielles, mais de l'amour en toutes choses. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces sujets sur lesquels tu insistes, Seigneur, et qui doivent nous faire réaliser que, oui, on a peut-être déjà entendu la chose et on veut passer à autre chose, mais tu te permets de nous rappeler avec insistance certaines choses parce qu'elles sont, souvent un problème dans nos vies, dans notre façon de concevoir notre relation avec toi. On sait que tu vas continuer, même dans le chapitre 15, à parler encore de ce sujet. Seigneur, aide-nous à être réceptifs, mais surtout à être transformés par ta parole. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen.